Alors aujourd'hui, je vais commenter et partir d'une phrase du prophète Isaïe, au chapitre 38, verset 19, qui dit ceci: « le vivant lui seul te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père à ses fils fait connaître ta fidélité. » Et ce serait une manière aussi pour moi d'entrer aussi dans le commentaire d'une encyclique, d'un document très très beau dont je vais parler, l'Évangile de la vie, qui est paru il y a une bonne vingtaine d'années et qui nous parle de cette vie à la fois dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église. Mais ce cri, le vivant lui seul te loue, c'est vraiment un cri de prière d'Ézéchias qui est repris par le prophète Isaïe. On peut dire que c'est un cri viscéral, c'est un cri spirituel. En tout cas, il est charnel, il exprime un goût pour l'existence éprouvée par la personne en son corps et par la vie qu'il admire autour de lui, de cette personne. Cette existence est, comme naturellement, rapportée à Dieu, qui est la source et la fin d'une action de grâce. Ce verset met aussi dans la bouche d'un être humain l'expression d'une communion profonde avec Dieu, puisque la louange, quand elle éclate liturgiquement et puis dans le cœur personnel, est une prière. Et ce verset inscrit la fidélité de l'homme, si vous avez remarqué, dans un lien générationnel et dans la qualité divine qu'il révèle. Le Père à ses fils fait connaître ta fidélité, la fidélité du Seigneur. Donc cette communion qui est exprimée, comme dans tout le vocabulaire de la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament, cette communion, elle est, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est pas du virtuel, elle est en lien avec le corps de celui qui prie, avec tout le vivant, l'univers entier, tout ce qui est vivant rend gloire à Dieu. Ézéchias l'affirme, et les prophètes qui voient la trace de Dieu dans l'histoire en font mémoire dans d'autres livres. Et n'est-ce pas donc aussi le propre de l'homme, de son identité, de pouvoir rassembler cette vie qui imprègne le monde créé, tout le cosmos, et de l'offrir en sacrifice à celui qui est pure vie de toute éternité? L'homme n'est-il pas, comme dit saint Ignace, créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme? Son âme, en hébreu on dirait sa nefesh, sa vie intime, unique et indivisible. C'est comme, si je fais allusion à un grand jésuite qui est décédé, qui s'appelait Théa de Chardin, qui a écrit cette fameuse messe sur le monde. Méditer, célébrer une messe sur le monde, c'est pousser ce cri de louange par rapport à tout le réel. Mais nous sommes dans l'Ancien Testament, et ce cri est-il encore valable? Est-il encore répercuté dans le Nouveau Testament? Ce cri-là, cette louange, qui vous paraît peut-être belle et bonne, est-elle encore la louange de nos contemporains? Comment l'Église d'aujourd'hui peut-elle chanter le même chant qui donne vie et qui est vie pour tous les hommes de bonne volonté? Un document paru en 1987 qui s'appelle Donum Vitae, le don de la vie, c'est un document très précis, un peu austère, qui parlait des procréations médicalement assistées. Dans ce document signé et approuvé par Jean-Paul II, Jean-Paul II consultait aussi et donnait une doctrine, et puis après réception du document, à travers une réunion qu'on appelle un consistoire, en 1991-91, il invitait les évêques à lui faire part de leur suggestion sur ce que l'humanité faisait de la vie humaine. C'est la question. Il faisait allusion à la culture violente, à l'encontre de la vie humaine, à une certaine crise morale, à une éclipse de certaines valeurs, un oubli de Dieu, à une violence des puissants, une dérive individualiste. et une centration sur la conscience de chacun subjective. C'était un diagnostic un peu sévère repris à l'intérieur d'une argumentation d'un autre document qui a surgi plus tard qui s'appelle Veritatis Splendor, la splendeur, la beauté de la vérité, et puis un document qui a été composé et publié en 1995 qui s'appelle Evangelium Vitae, c'est-à-dire l'évangile de la vie. Et la perspective là est beaucoup plus missionnaire, scripturaire. Elle parle, cette encyclique, de l'annonce de l'évangile comme une parole de vie pour nos vies. Puisque la création est à la fois une œuvre de Dieu et une œuvre de l'homme, eh bien, il s'agit de travailler cette conviction, cette assurance, et de vérifier à travers nos paroles, nos vies, cet aphorisme, ce dicton, ou cette réflexion plutôt, de saint Irénée, que vous connaissez peut-être, qui dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Il faut compléter cette citation, c'est « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et l'homme vit quand il voit Dieu ». Donc cette affirmation est directement théologique, théologale, comme on dit, ou spirituelle au sens large du terme. Donc, ce texte d'Evangelium Vitae est traversé d'une admiration sans faille pour la vie accueillie comme un don, comme le cri du prophète Ézéchias. Et peu de textes, qu'on dit du magistère, présentent une unité aussi harmonieuse entre les langues variées de l'Écriture, l'Ancien et Nouveau Testament, les psaumes, les prophètes, les évangiles, et une harmonie avec le monde symbolique, l'articulation aussi de concepts. Concepts, c'est des définitions philosophiques et des affirmations dogmatiques. Peut-être trouver une place facile pour monsieur. Face à cela, les changements auxquels nous assistons en ce troisième millénaire traversent bien les nombreuses cultures. Ce dont nous parlerons, n'est pas lié simplement à notre monde belgo-français ou à la culture occidentale. Si vous allez en Inde, il y a les techniques les plus poussées au point de vue d'accueil de la vie et de procréation médicalement assistée. On peut aller aux États-Unis, on peut aller du côté de Tel Aviv, les grands experts et médecins et chercheurs sont là-bas aussi. Et la rencontre se fait avec des religions parce que à la fois, le phénomène religieux ne laisse personne indifférent, il faut se situer, et en même temps, les religions et le christianisme, dans l'Écriture sainte et la tradition, parlent beaucoup de la vie. Et alors, face à ce qui nous paraît un peu dépassé, qui perd de sa stabilité, face à ce qui devient marginal, face à ce qui était communément admis de tous, eh bien nous constatons que cela a changé. Dans le domaine de la vie, les questions pleuvent. On cherche des repères pour vivre, mieux vivre, disent certains, mais parfois pour survivre. Puisqu'on dit communément, tiens, la nature n'existe plus. Chercher des animaux naturels, en dehors de certains parcs naturels, c'est difficile d'en trouver. Il y a bien des renards à Bruxelles, ils font leur terrier dans le parc ici, pas loin, etc. Mais ils se nourrissent bien différemment que dans les Ardennes. Alors, où est la nature et où est la culture? Dans ce contexte-là, la question que nous nous posons durant tout le séminaire, c'est celle de l'identité de l'être humain. Savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que l'homme doit devenir? Bien sûr, vous dites, l'identité de l'être humain, elle s'affirme par soi. C'est-à-dire, moi, je me sens un homme, homme, femme, vous voyez, c'est la même chose, entre guillemets, mais je sens bien la différence avec une hirondelle, puisqu'il paraît qu'un quartier de Bruxelles qui est plein d'hirondelles maintenant. Je suis bien différent, je prends conscience de moi, je suis bien différent d'un renard, je suis bien différent des oiseaux dans le ciel. Et pourtant, comme Icare, en son temps, il désirait voler, peut-être qu'au fond de nous, on a le désir de faire pousser des ailes d'une manière biotechnique et de pouvoir un jour résoudre le problème des bouchons à Bruxelles et voler directement de notre maison à l'auditoire de l'IET. Voilà. Peut-être. Mais qu'est-ce que l'identité de l'être humain ? Elle s'affirme par soi, mais aussi elle se perçoit dans son devenir, comme disent les philosophes. Donc, ben, le petit de l'homme, on voit bien qu'il ressemble déjà dans son berceau à son papa ou à sa maman, mais qu'est-ce qu'il sera quand il aura 14 ans ? Qu'est-ce qu'il sera quand il aura 20 ans ? Il est dans une histoire et son corps change, les apparences changent. Donc, cette identité, elle est toujours historique, elle est toujours dans une histoire, que nous appelons une histoire sainte, parce qu'elle est pénétrée de l'Esprit Saint, qu'elle est pénétrée de la présence de Dieu. Et dans cette histoire, il y a deux lieux qui fascinent et qui ne peuvent pas être oubliés, c'est l'origine de l'homme et sa fin. Dans le temps d'une vie, la conception et le passage de la mort symbolisent cette identité de l'homme. Entre les deux, nous restons hommes. Symboliser, ça veut dire dire qui est l'homme, mais parfois comme par excès, comme s'il y avait trop de lumière quand on voit un petit homme au microscope qui est conçu, ou qui avait trop de lumière ou trop d'obscurité quand on voit le décès d'un être cher. Et puisque personne d'entre nous n'est venu à l'existence de par sa propre volonté, et puisque personne ne peut éviter ce passage qu'est la mort, ces deux moments de la vie humaine contiennent une clé. Comme quand on ouvre une porte, nous on dit un peu dans notre langage un peu barbare, une clé herméneutique, ça veut dire une clé d'interprétation pour mieux se comprendre soi-même, pour mieux accueillir l'altérité de l'autre, le petit embryon, est-ce que c'est vraiment un être humain comme moi, pour mieux vivre la vie de tous les jours. Donc c'est une question positive que de se demander qui suis-je, qui sommes-nous, quelle est l'identité de l'être humain. Et si, puisque nous allons vers un chemin qui nous mène vers les questions de transhumanisme, si nous allons nous poser la question du transhumanisme, c'est de dire, mais pourquoi cherchons-nous à être autre que ce que nous sommes? Pourquoi cherchons-nous à augmenter notre capacité de mémoire, par exemple? On voudrait que nos enfants soient super... enfin qu'ils aient plus que quelques mégas d'ordinateurs dans la tête, donc qu'ils puissent rivaliser avec les futurs robots. En même temps, on voudrait, nous, peut-être dépasser les 125 ans d'âge. Il paraît que c'est l'âge limite de la personne la plus âgée. Et malheureusement, les scientifiques, vous voyez ce que je veux dire, je souris un peu, mais malheureusement, les scientifiques viennent de dire aujourd'hui sur un site, semble-t-il sérieux, qu'il semble que dans la nature de nos gènes et de notre corps, nous ne pourrions pas aller plus loin que 130 ou 140 ans, quoi. Donc l'immortalité, c'est une illusion ou une utopie tant qu'on n'aura pas changé autre chose dans notre corps. Enfin, ça c'était la petite page scientifique d'aujourd'hui, mais peut-être que dans une semaine, il y aura une autre enquête qui nous dira plus, voilà. Mais cette vision positive nous montre qu'il faut donc bien voir ce qu'est l'origine et la fin de la vie humaine, et que ces lieux sont l'objet, vous le sentez en vous, dans votre culture, l'origine et la fin sont le lieu d'une multiplicité de désirs contradictoires concernant la conception. Parce que certains courants voudraient, bon ben, que la femme ne porte plus l'enfant, ça serait quand même plus facile qu'il y ait un utérus artificiel. Et d'autres courants disent, mais non, au contraire, il y a une joie pour une femme de pouvoir porter un enfant, elle s'accomplit quelque part là-bas, elle grossit, elle a un lien tout à fait immédiat avec son enfant, ce que papa n'a pas, etc., etc. Donc, il nous faut poser ces questions et d'une manière positive, nous tournons autour de l'identité de l'être humain et nous savons aussi que dans la Bible, dans notre tradition chrétienne qui est quand même, ça fait pas une centaine d'années, il y a quand même un peu plus, avec l'Ancien Testament, plusieurs milliers d'années que cette tradition judéo-chrétienne, eh bien, dit quelque chose sur l'homme. Est-ce que tout est relatif ou bien il y a quelques invariants sur l'identité de l'homme? Voilà, ça c'était en guise d'introduction, mais je voulais parler du mystère de la vie, de la parole de Dieu comme un hymne à la vie, donc je vais parcourir quand même un peu l'écriture, de la question délicate de l'origine de la vie et puis de la fin de vie, et puis du Christ comme personne maître de la vie et de la mort qui a traversé la mort. Prenons le premier point, le mystère de la vie. Je ne vais pas trop vite. Vous avez une petite... Bon, la feuille de route ne dit pas tout, parce que sinon, on ne ferait que lire tous ensemble. On pourrait faire autre chose, quand même. Et donc, il y a le plan que vous pouvez retrouver. Mais le mystère de la vie. Mais le terme de vie, il est à la fois global et flou. Est-ce que c'est un élan vital qui traverse tout ce qui vit et se reproduit? Une spontanéité généreuse dans les attitudes humaines? Ça, c'est un bon vivant. Et voilà, on a tout dit quand on est heureux de l'inviter à manger ou d'animer une soirée, c'est un bon vivant. Par rapport à quelqu'un qui est plus austère, vous voyez, un jésuite un peu sec comme ça sur les bords, qui ne sait pas boire un verre de bière, bon, j'exagère un peu, mais une rationalité un peu trop formelle, trop précise, trop desséchée. Et la vie est-elle une entité qui transcende les générations et les individus, puisque elle continue, même après la mort? Est-ce qu'il y a un héritage à transmettre, nous qui sommes des vivants et puis qui allons mourir? La vie est-elle une nouvelle divinité, un absolu à respecter? Quels sont les traits du sacré dont elle s'entoure, ou bien dont les hommes la revêtent? Est-ce qu'on peut donner ça finalement pour ceux qu'on aime? Puisque c'est sacré. Ce qui vit, respire, ce souffle, d'où vient-il? Et comment s'épuise-t-il? Est-ce qu'il faut commander des antihistaminiques pour retrouver un bon souffle, ou bien il y a un souffle qui vient d'au-delà de nos poumons? Cette vie qui anime le cosmos et prend des formes extraordinairement variées est-elle différente dans l'espèce humaine? Y a-t-il une différence entre cette vie et celle des animaux? Du point de vue biologique, des caractères précis sont liés au phénomène vie. On dit qu'une cellule vit, une bactérie existe, ben voilà. Tout comme un renard ou un oiseau, très bien, mais pourquoi? Parce qu'on peut repérer de la nutrition, de la respiration, une reproduction, une organisation dès qu'il y a une membrane cellulaire, une intégration de plusieurs éléments dans une unité, un organisme cellulaire, une individualité, une autonomie. Ce sont des traits communs et en plus, il y a un code génétique caché ou bien révélé au microscope, qui permettent une reconnaissance de l'espèce, puisque l'homme n'est pas un chimpanzé, il y a des petites différences au niveau chromosomique, mais ça suffit peut-être pour dire qu'ils ne sont pas de la même espèce. Il y a une évolution à travers le milieu ambiant. À Bruxelles, il y a des perroquets qui sont venus du Brésil et maintenant qui nous attaquent, enfin je veux dire, qui traversent le ciel en bande. autant que les oies du Capitole, bien, ils se sont adaptés, ils se sont reproduits, alors qu'à Bruxelles, de temps en temps, il y a de la neige, il fait froid. Bon. Donc tout cela est à étudier. Et toute cette vie a une trame fondamentale, par exemple la structure des atomes, d'autres éléments. Tout être vivant, ben, il naît, il grandit et il meurt. Mais ce mouvement ne s'arrête pas avec lui. Et si les individus meurent, la vie demeure pourtant. Alors, peut-on parler d'immortalité ? Cette vie est-elle sans entropie, c'est-à-dire sans perte irrémédiable d'énergie ? Quelle est la source de la vie biologique ? Quelle est la fin de l'infiniment petit à l'infiniment grand ? Tout ce qui vit n'est-il pas admirable, donc, et digne de subsister ? Et pourtant, c'est toujours mêlé à de la souffrance pour ceux qui, ou des animaux qui ressentent cette souffrance, au fait de la mort, à une destruction organique. Les géraniums, maintenant, ben, il faut les rentrer, hein, si vous voulez les garder pour l'été prochain, parce que si au premier gel, c'est fini. Voilà. Et on perçoit qu'il y a un mélange. Par la parole qui exprime ses pensées, l'homme vit et se perçoit de diverses manières comme un vivant. Et deux thèses s'affrontent régulièrement. Pour les uns, nous appartenons au monde animal, de telle sorte que les connaissances acquises ainsi que les pratiques peuvent être les mêmes. La vie biologique chez l'homme n'a pas de spécificité propre. Nous sommes des mammifères, comme d'autres mammifères. Pour d'autres, tout en présentant des traits identiques, le biologique chez l'homme n'est jamais purement biologique. Il est transformé radicalement dans l'unité personnelle qu'est tout être humain. Donc l'observation, le soin, le traitement, l'apparition et la disparition de l'homme ne sont que lointainement comparables à ce que vit tout être vivant dans la création. Et la preuve, c'est qu'au nom de l'autonomie qui nous est propre, chacun de nous peut avoir pensé et continuer à penser le rapport qu'il a à son propre corps et au cosmos. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer ou penser, c'est d'ailleurs souvent les kinés vous font faire cet exercice, eh bien, les parties de votre corps et comment ils se situent. Si vous êtes dans une pièce les yeux fermés, ben, est-ce que vous vous situez sur le plancher, sur le plafond, à côté, etc. Donc, il y a une capacité réflexive que nous avons qui n'est pas liée à l'instinct. Ben, chez les animaux, bien sûr, ils peuvent se situer, ils ont leur territoire, les poissons et les oiseaux aussi, mais chez nous, elle n'est pas liée à l'instinct. Bon, on peut se dire, on ne réfléchit plus, on va dormir. Mais par contraste, certains chercheurs, et non des moins, disent ben, que cette limite entre le monde animal et le monde humain, elle est en train de s'effacer, ou elle doit s'effacer, ou elle n'existe plus. Et donc, je vais citer un auteur américain qui a eu son franc succès, Peter Singer, au Singer, et bien, qui affirme que rien de mieux et rien de plus respectable qu'un petit cochon, bien sûr bien propre et bien frais, de 3-4 mois, qu'il a plus droit au respect qu'un embryon humain qui n'a pas encore une forme humaine. On ne voit pas encore très bien où est son cerveau, son cœur, etc., etc. Donc c'est une manière d'exprimer ou d'annuler une frontière entre l'homme et l'animal. La science, même la biologie, par méthode quelque part, veut tous les corps. Elle veut comprendre le corps depuis la conception à la mort. C'est Monette Vaquin, psychanalyste et essayiste, qui dit ça dans son livre « Main basse sur le vivant ». La science, quelque part aussi, met à mal un principe de médecine qui est le suivant, l'indisponibilité du corps humain. Mais si on peut travailler sur le corps humain, je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas. Qu'il soit la personne humaine soit morte ou pas morte, il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de la peau. Ça, c'était du temps de la dissection. Maintenant, on utilise tout le numérique, tous les phénomènes d'observation. Mais dans ce domaine-là, si on explique tout et on voit les conduits pulmonaires ou les veines et la coronographie, par exemple, est-ce qu'on parvient à voir ce qui en nous dépasse l'être humain, ce qu'on appelle la transcendance de l'être humain, ou bien on brouille la distinction entre homme-chose. Donc il y a un peu de peine quand on se situe simplement dans une catégorie de réflexion comme la science, la psychologie, ou bien la sociologie, à voir que l'homme dépasse l'homme, l'homme passe l'homme, disait Pascal. Donc ces frontières du vivant s'estompent, soit au bénéfice d'une plus grande perception de l'unité de la création. Nous faisons partie d'un tout. J'ai un lien tout à fait particulier avec la pleine lune, avec les radiations qui nous viennent de l'espace. Je suis dans l'univers et je suis très heureux dans ces galaxies immenses, mais je vis, etc., avec une tentation de panthéisme. Soit, si ces liens s'estompent, ça se fait au dépens du dessein d'amour de Dieu dans l'univers, tel que Dieu l'a voulu ou qu'il l'énonce dans sa parole, dans la Bible, et la parole que sont les hommes, et la parole par excellence qu'est son Fils, le Logos. Il y a un enjeu là, de cette réflexion ambiétique qui apparaît, et ces phénomènes de mondialisation, on ne va pas parler politique ni économie, mais permettent quand même parfois une dissolution ou une invasion de ce qu'on appelle en philosophie l'homo, l'homme technicus. Ben, on est tous les mêmes. Et donc, quel est ce qui dépasse l'homme chez les Indiens, par exemple, au moment de la découverte de la Nouvelle-Espagne? Est-ce qu'ils sont vraiment des hommes? La question se posait. Est-ce que maintenant, la différence entre le robot et chacun de nous, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce qu'il y a une âme? Est-ce qu'il y a une transcendance? Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'il y a un cœur profond? Voilà pour le phénomène vie, c'est le premier point. La parole de Dieu, telle que nous l'avons apprise ou que nous pouvons la côtoyer dans la Bible, la parole de Dieu, elle dit des souffrances, bien entendu, une histoire, mais elle est quand même bien un hymne à la vie. Dans le psaume 18, verset 47, il est dit « Le Seigneur vit ». Donc, quand on réfléchit sur Dieu, à travers le psaume, on sait qu'il est vivant. Non seulement qu'il existe, mais il est vivant. Il est le vivant par excellence. Toute vie lui appartient. Il est d'ailleurs le Seigneur de la vie et de la mort. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 6, il est dit « C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol et en remonter. » Dans le Deutéronome, au chapitre 32, verset 39, « Voyez maintenant que moi je le suis, c'est l'affirmation de Dieu, son existence, que nul autre avec moi n'est Dieu, je suis le seul Dieu. C'est moi qui fais mourir, qui fais vivre. » Cette vitalité de Dieu se révèle dans sa création, et les premiers récits de la Genèse l'explicitent magnifiquement. Dieu est la source de la vie, psaume 36, verset 10, « En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Souvenez le texte de Bouillet pour les étudiants, le lien entre la vie et la lumière. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme une tente. » Donc c'est lui qui appelle à l'existence, qui dispose des événements de l'histoire des hommes. Toutes les créatures existent de par l'haleine de Dieu, le souffle de Dieu. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre, dans le psaume 104, verset 30. Donc l'homme aussi, si vous voyez le récit de la création, si vous lisez ce soir, eh bien en Genèse 2, 7, l'homme, on insuffle, c'est l'Esprit Saint, ou la roue, le souffle, on insuffle par ses narines l'haleine de vie qui fait de lui un être vivant. Ève, c'est aussi son nom, c'est la mère des vivants, pas seulement de la terre glaise ou réduite en poussière. Et si on voit les récits de la création, je vais peut-être vous faire sourire, mais quand même, le jardin d'Éden, comme on dit, le beau jardin, eh bien, c'est une image de vie, c'est luxuriant, il doit avoir des fruits là, ça doit être beau à voir, il y a de l'eau qui coule, etc. C'est pas tout à fait la banquise de l'Alaska, enfin, c'est pas le désert du Sahara, c'est différent. Donc il y a une abondance de vie, tu combles la terre de tes richesses, tu abreuves les sillons de la terre, tu prépares les moissons. Donc, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le jardin d'Éden, il y a un arbre de vie aussi, un arbre de la connaissance du bien et du mal, qui montre que Dieu aime la vie et que la vie n'est pas non plus en dehors de l'histoire, comme si l'histoire n'existait pas, qu'on serait dans une bulle de vie, comme on imagine sur la planète Mars, si on va un peu habiter là-dessus, il faudra qu'on soit protégé quand même au début. Eh bien, non, la vie, elle est là, naturellement. Mais en même temps, s'il y a un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit bien que la vie a un enjeu. C'est-à-dire, c'est en vivant, c'est en aimant la vie qu'on peut faire le bien, qu'on peut vivre bien, ou bien le contraire, faire mal, tuer par exemple. La vie humaine est un lieu où l'homme peut rendre gloire à Dieu ou bien le contraire. Donc, il ne faut pas dire que c'est un no man's land éthique. Parfois, on a l'impression de dire, bon ben, ça, ou que ce soit les questions de fin de vie ou les questions d'origine de la vie, bon, écoutez, ça c'est de l'ordre de la morale privée ou c'est les cathos qui pensent ça, etc. C'est plus large. Il n'y a pas de no man's land éthique. Quand on a défini le stade de pré-embryon, jusqu'à 14 jours du côté de la législation anglaise, eh bien, c'est un nom qu'on a posé à un petit embryon qui commençait à grandir, et qu'on a posé, nous, a priori, et on a dit, ben, jusqu'au 14e jour, on peut faire n'importe quoi avec lui. C'est pas encore un embryon, puisque c'est un pré-embryon. C'est un peu un jeu de mots, quand même, c'est un sophisme juridique. Donc, la vie humaine peut être le lieu pour choisir le bien ou le contraire. Je te propose, je cite Deutéronome 30, 19, 20, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, s'attachant à lui, car là est ta vie. Donc, cette expérience de notre vie, vous vous sentez vivant ce soir, eh bien, c'est toujours une expérience éthique. C'est-à-dire un appel à mieux vivre ou à partager cet élan de vie avec d'autres, à reconnaître la vie d'autrui, etc. Donc, le cri le plus vital et le plus profond de tout être humain, c'est de chanter cette grandeur du Dieu créateur qui se met en alliance avec nous et qui dit petit à petit qui il est le Seigneur, il est le Père, notre Père, et les chants et les hymnes de nombreuses religions déploient cette beauté de Dieu, mais la tradition judéo-chrétienne est sans pareil, car il y est dit que Dieu s'y révèle dans ses œuvres, que tes œuvres sont nombreuses. Il y a un fameux chant là, liturgique, hein, que tes œuvres sont belles, et qui montre ce surgissement de la joie de Dieu dans nos cœurs. On ne fait pas que pleurer ou qu'être triste comme chrétien. Et voilà, pour rejoindre la louange du prophète Isaïe. Cette beauté de Dieu en ses œuvres n'est pas un esthétisme de la vie. Nous ne fuyons pas la souffrance et la mort, les difficultés, les obstacles ou la réflexion ou les objections. Nous n'avons pas à voir Dieu dans ce que saint Thomas appelle les causes secondes. Dieu peut intervenir en tout, mais il respecte les lois de la nature. Ce n'est pas si simple que ça à élaborer, mais on ne faut pas voir la nature non plus comme Rousseau ou d'un point de vue romantique. retour à la nature. Avec les huiles essentielles, je n'ai rien contre, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. En retour à la nature, parce que d'autres phénomènes de la nature et de la vie nous mettraient directement en hiatus avec ces considérations romantiques. Les catastrophes naturelles existent également. Ouragans, éruptions volcaniques, tsunamis. Et sans jeu de mots avec mon propre nom, il y a un ouragan Machu qui menace quand même pas mal les îles de ce côté-là. Donc on se dit, mais la nature peut être méchante. On lui dit, on lui impose un qualificatif de notre propre jugement. Donc, il y a un appel éthique, mais qui passe toujours par notre conscience, par notre liberté, et qui interprète les phénomènes de la nature et la présence de Dieu dans la nature. Bénir le Seigneur, c'est être et faire comme lui. Donc, aimer la vie, la respecter. Et je vous cite une petite phrase que je n'ai pas retrouvée sur Google pour l'instant, mais j'en suis pratiquement sûr, de Einstein, qui a dit de manière géniale ceci: celui qui est devenu incapable de s'émerveiller et d'être frappé de respect est comme s'il était mort. C'est le contraire d'un vivant, quoi. Alors, de manière plus modeste, ça éveillera peut-être la mémoire chez certaines mamans ou papas un peu impatients qui vont chercher leurs enfants à l'école, au printemps en tout cas, quand les fourmis sortent des pavés de Bruxelles, et que les petits-enfants, au lieu de bien obéir et de monter dans la voiture, s'arrêtent sur le trottoir et s'arrêtent devant quelques fourmis qui tournicotent comme ça, qui tournent, etc. Grand énervement du papa, eh bien, ils s'émerveillent, ils sont capables d'avoir un regard. Bon, bien sûr, il ne faut pas exagérer, il faut pas rester 2 heures, il faut faire le pique-nique, etc. Mais un regard contemplatif que nous avons encore tous par rapport à la vie, mais qu'il nous faut travailler plus consciemment, plus librement qu'un enfant. Voilà. Donc, vivre, c'est plonger dans les merveilles de la création. Ce n'est pas seulement voir leur extériorité, mais les contempler, ça veut dire voir le lien nécessaire et paisible avec la source de ce que l'on regarde. Si une fourmi existe, c'est comme l'œuf de la poule et la poule de l'œuf, mais qui est la cause première? Est-ce qu'il y a un Dieu qui s'occupe, un bon Dieu, qui s'occupe aussi des fourmis? Bien, si mon petit chat meurt, est-ce qu'il va au paradis ou pas? Enfin, quelles sont ces questions posées par les enfants, qui sont parfois de grands métaphysiciens, comme on dit, de grands réflexifs? Et cette beauté des choses, je continue en essayant de démonter l'esthétisme, nous ne visons pas un esthétisme. Cette beauté des choses n'appartient pas aux choses elles-mêmes. Elle renvoie toujours à une altérité personnelle, c'est-à-dire à une autre personne. Quand on voit un enfant, on peut voir aussi ses parents. On peut le voir le fruit d'une lignée avec ses ancêtres. On peut aussi voir dans un enfant la présence d'une altérité qui est plus grande que celle de ses parents, une altérité qui fonde sa vie, c'est celle du Créateur. Ce qui vit est appelé à être bon, et tout vivant est appelé à faire le bien. Et je vous cite au numéro 48 de l'Évangile de la vie, cette petite affirmation. Il n'est absolument pas possible que la vie reste authentique et plénière si elle se détache du bien. Et le bien, à son tour, est fondamentalement lié au commandement du Seigneur, c'est-à-dire à la loi de la vie. Il cite Siracide, chapitre 17, verset 11. Toute loi morale est donc loi de vie. Et c'était déjà dans le récit de la création, Genèse 10, 12, etc., ce fameux refrain qu'on connaît tous. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit au sixième jour pour l'homme et la femme que cela était très bon. Et même après la chute, la bénédiction divine accompagne les hommes dans leur vie, dans la manière dont ils transmettent la vie. La vie d'autrui, dans ce contexte-là, rapportée à une extériorité, à une altérité humaine et une altérité divine, cette vie est sacrée. car elle fait référence à un créateur, maître de la vie et de la mort. C'est en ce sens que répandre le sang innocent, ce n'est pas seulement transgresser un commandement fondateur d'une société, mais faire mal, et faire mal à Dieu. Au contraire, l'honnêteté, la droiture, l'attention au prochain et l'étranger deviennent des repères du chemin de la vie, comme dit le livre des Proverbes, au chapitre 2, verset 9, et d'autres citations des psaumes. Evangelium Vitae, au passage 30, numéro 39, dit « Le message d'ensemble qu'il appartiendra au Nouveau Testament de porter à sa perfection est un appel pressant à respecter l'inviolabilité de la vie physique et l'intégrité de la personne. Il culmine dans le commandement positif qui oblige à prendre en charge son prochain comme soi-même. » Et nous le savons, à la fois parce que c'est dans l'Évangile Vitae, mais qui commente un passage plus important de l'Évangile de Saint Jean, dans le prologue, ce phénomène vie trouve une actualité, une vérité nouvelle, dans le Verbe incarné, le Logos qui s'est fait chair, il est venu habiter parmi les siens. La vie de la chair, pour nous en tout cas, peut-être pas pour tous les insectes et les poissons non plus, mais elle est dans le sang. C'est pour ça que le Lévitique attache beaucoup d'importance au sang. Mais l'événement par lequel le Verbe s'est fait chair est décisif sur la signification de ce qu'est la vie en nous, dans l'univers, dans l'histoire, pour l'éternité. Nous sommes des vivants, non pas seulement parce que nous avons du sang, mais parce que Dieu lui-même, le Logos, s'est uni à toute humanité. Le Logos ne donne pas seulement la vie, mais il est la vie en personne. « Je suis la vie », dit Jésus dans Jean 11, 25, à mort de Lazare. « Il est le pain de vie ». Cette vie vient d'en haut, elle est rapportée au lien le plus intime que Jésus a avec son Père. Quel est ce lien? La filiation. C'est un point que nous avons développé ce matin. C'est le Fils qui nous offre une vie de fils. Nous sommes des fils et des filles adoptés. Nous sommes des frères et sœurs de Jésus-Christ. Donc le commandement de Dieu qui porte sur la protection de la vie de l'homme arrive à un niveau très profond dans l'exigence de vénération et d'amour pour toute personne et pour toute vie. Une vie fraternelle liée à la génération. Cette vie apparaît dans le Logos, cette divinité qui se révèle, et en même temps, elle se transmet à travers les générations humaines dans l'amour et par amour. Nous pouvons faire allusion, bien sûr, à la naissance de l'enfant Jésus. Il y a un petit jeu de mots en hébreu qui parle de cet enfant de Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain. Eh bien, il vient transformer la maison du pain, cette petite maison où il est, eh bien, en maison de vie, une terre habitable pour tous. La maison commune, dit le pape François dans son encyclique, nous date aussi. La vie humaine est donc faite de justice et de charité, de bonté, de bienveillance. Et le cri des pauvres, des peuples qui ont faim, est un cri pour nous dire que cette vie n'est pas digne du dessein de Dieu sur l'humanité. Donc notre vie à nous, parce que le Logos, c'est-à-dire la seconde personne de la Trinité, s'est unie à notre humanité, notre vie à nous est une parabole du mystère de la vie en Dieu. Nous pouvons nous regarder nous-mêmes et nous regarder les autres pour comprendre ce qu'est la vie divine. Par le Christ, elle devient une réalité tangible, forte et éternelle. L'encyclique dit « La vie éternelle, la vie de l'homme vient pardon de Dieu, c'est son don, son image, son empreinte, la participation à son souffle vital. Dieu est l'unique Seigneur de cette vie. » Et c'est pour ça que cette encyclique parle beaucoup de l'évangile de la vie. Le terme n'est pas dans l'Écriture sainte, mais c'est comme une interprétation. Il y a un évangile de l'amour de Dieu pour l'homme, un évangile de la dignité de la personne, un évangile de la vie, Mais ces trois expressions désignent un même évangile, unique et indivisible. C'est la même tessiture, c'est la même trame. Amour, vie, dignité de la personne. En Jésus, verbe de vie, donc annoncer et communiquer la vie divine et éternelle. Cette vie, troisième point, est une question délicate et décisive à l'origine. La vie, dit l'encyclique, porte sa vérité inscrite de manière indélébile en elle. Et c'est pour ça qu'il y a des précisions qui surgissent sur cette vie dès la conception. Nous savons que l'air que nous respirons n'est pas toujours très pur. Nous savons que ce qui nous arrive de penser spontanément, ou les habitudes, les mentalités ou les coutumes ne sont plus très favorables au respect inconditionnel de la vie humaine. Et donc il y a un défi. Avant toute décision personnelle, un petit bébé maintenant qui naît, il entre dans un monde qui a de grands défis culturels. Et donc cette culture, un peu, Jean-Paul II insistait très fort, peut-être trop, peut-être à un moment donné, mais c'est une question historique, il y a une culture de mort, ce qu'on appelle une structure de péché, qui accueille tout être vivant et dans laquelle nous sommes. Et parfois nous vivons une grande impuissance par rapport à cette culture. Nous ne savons pas comment changer, comment faire mieux. Si vous habitez Pékin, c'est très difficile quand même de ne pas se promener avec un masque pour protéger, pour respirer, quoi. Et il y a des millions de personnes qui ne savent pas comment faire pour changer ça. On vit une impuissance dans un contexte de structure avec des conséquences mauvaise pour la santé, pour la vie et le confort de chacun. Donc il faudrait plus d'accueil, d'amour et de soins pour la vie, pour notre manière de vivre. Ici je ne fais pas un discours politique écolo, mais je rends compte d'une aspiration qui peut traverser tous les partis, je crois, et toutes les conditions humaines. Et l'idée est, c'est le numéro 18 qui souligne ça, je trouve important, surtout qu'on va avoir quelques interventions d'autres de la loi, qu'on va être confronté à des lois, etc. L'idée des droits humains comme droit inné de toute personne, antérieur à toute législation des États, se trouve aujourd'hui devant une contradiction surprenante, dit l'encyclique, en un temps où on proclame solennellement les droits inviolables de la personne, où l'on affirme publiquement la valeur de la vie, le droit à la vie lui-même, est pratiquement dénié et violé à des moments significatifs de l'existence, tels que la naissance et la mort. C'est le numéro 18. La vie, dès la conception, est un bien fondamental. Il s'agit de la respecter. Si vous avez le temps de relire le psaume 139, vous verrez cet respect. Et cette affirmation que Dieu est le cœur de notre vie, de notre existence, quand il dit au verset 16 du psaume 139, « Mon embryon, ce sont tes yeux qui le voyaient. » Et je vous fais une petite réflexion comme ça, peut-être que j'exagère, les mamans me diront le contraire, mais quand même d'autres me l'ont dit. En fait, une maman, ça prend quand même quelques heures en son propre corps, pour savoir si elle est enceinte ou pas. Il y a certaines femmes qui ont une grande sensibilité, qui peuvent percevoir que, voilà, il y a quelque chose qui bouge dans leur corps et qui est probablement l'annonce d'une fécondation et peut-être petit à petit une nidation. Mais donc, même la maman ne connaît pas tout de suite le résultat de la fécondation. Et dans le psaume 139, que vous lirez, et dans l'expérience théologique qu'on peut faire et réfléchir, il est affirmé que Dieu connaît, lui, ce premier instant. Il est là. Mon embryon, tu le connaissais. Alors qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas tout le phénomène de spermatozoïdes, d'ovocytes, etc. Non. La créature a besoin du Créateur. La créature s'évanouit sans le Créateur. Et s'il y a une certaine opacité, elle peut être éclairée par la vie même de Dieu. car il y a une bénédiction, je rappelle, et une bienveillance divine à cette vie qui nous est offerte dès la conception. Donc, le rappel de la loi sainte de Dieu, de respecter la vie, est une audace, une affirmation radicale de l'importance de toute vie humaine, en même temps qu'une confiante espérance dans la bonté de Dieu. Et il est explicité dans ce contexte aussi, mais nous n'allons pas le développer comme cela, ce refus de l'avortement, qui est un thème douloureux, ancien dans nos sociétés. Il est devenu parfois un droit dans certaines législations, mais de mesurer quand même, à travers que ce soit des statistiques, que des populations entières s'en sont allées depuis la loi Veil en France. En Belgique, pour prendre une comparaison, quand même on a autour de 20 à 22 000 avortements par an, donc ça fait, je dis ça pour ceux qui connaissent la France et un beau sanctuaire comme celui de Paray-le-Monial, ça fait deux fois la ville de Paray-le-Monial qui disparaissent chaque année en Belgique. On peut faire des comparaisons comme ça, mais il ne faut pas trop exagérer, mais voilà. Donc il y a un enjeu à tout ce que je dis. Il n'y a pas un esthétisme en dehors, où on n'est pas tous enfermés dans la bulle. Il y a des enjeux éthiques. Et à la fin de notre vie terrestre aussi, on voit bien qu'il y a un enjeu. Alors, je vous sape une petite, on aura l'occasion de reparler de cela. Il y a une différence entre le moment de la conception et le moment de la mort. Ce sont deux points de la vie d'un homme qui sont importants. J'ai appelé des clés herméneutiques. Mais la conception, quand on y réfléchit un tout petit peu, il y a un moment donné où nous n'étions pas, l'embryon n'était pas là, il y a un moment donné où il est là. Il y a un avant et un après, et nous disons pour l'éternité, pour toujours. Il y a un avant et un après. C'est la manière d'exprimer le concept de création au sens philosophique et au sens théologique. Être tiré du néant. Je n'existais pas. Donc ne rêvons pas qu'il y ait du côté de Saint-Pierre, derrière la porte fermée ou ouverte, un local avec des tas de petits embryons humains pour les générations à venir. Les embryons n'existent pas au ciel avant de venir dans le sein d'une maman. On a cru ça à un moment donné. Donc, non, il y a un avant et un après. Par contre, le décès, la mort, il y a un avant et un après, mais la mort récapitule toute une histoire. Il y a un passage, il y a une nouvelle naissance, comme on dit, dies natalis, une naissance à une nouvelle réalité, mais cette réalité d'une personne bien vivante sur la terre, c'est la même réalité d'une personne qui passe par la mort et qui reste personnelle pour l'éternité. Donc le poids de la vie est important dans l'acte de mourir. Et je dirais aussi, pour faire plus bref, on peut revenir dans les questions. Quand on réfléchit sur la mort, des questions difficiles comme le suicide assisté, comme l'acharnement thérapeutique, comme l'euthanasie sous diverses formes, etc. Il faut quand même bien distinguer ou bien les réalités elles-mêmes, ça nous aide à bien agir. Mais surtout quand l'Église dit quelque chose, qu'elle définit quelque chose, il faut voir que l'Église ne fait pas que définir. La tradition de l'Église par rapport à la mort, la fin de vie, c'est une tradition qui n'est pas seulement intellectuelle, c'est une tradition de vie et de mort. C'est-à-dire l'accompagnement que l'Église a apporté aux malades dans les hospices, aux mourants, a toujours existé. Donc l'Église ne fait pas que rapporter des interdits ou dire qu'il faut vivre sa mort comme ça, elle accompagne celle que nous avons fêtée récemment, donc Thérèse de Calcutta. Elle était dans cette dynamique spirituelle apporter au moment de la mort une paix réelle et une dignité à la personne qui s'en allait. Elle était là, entre guillemets. Elle ne faisait pas le discours de Jean-Paul II parce que, semble-t-il, il se connaissait bien, mais elle agissait. Je ne dis pas que Jean-Paul II n'agissait pas, mais vous voyez, dans l'Église, il y a un lien entre la réflexion et l'agir. C'est ça que je voulais quand même bien manifester au début de ces conférences et à travers tous les thèmes que nous allons travailler. Et je termine avec c'est le cinquième point, la puissance de vie du ressuscité en son corps et en son sang. C'est une manière pour moi de lancer un petit ballon d'encouragement, de vous dire qu'au mois de janvier, je vais rencontrer cette question dans une thématique que vous pouvez voir sur le calendrier, un corps dans le corps du Christ. Mais c'est vrai, le seul qui est le vivant par excellence, qui est en sa personne et qui est source de toute vie, c'est le Christ, non seulement parce qu'il s'est mis en notre chair, il s'est uni à toute humanité vivante, mais aussi parce qu'il a traversé ce moment de la mort, qu'il est ressuscité, et que dans son dialogue là, avec les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, il a affirmé « Je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Alors, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que Lazare, il va ressusciter? Jésus l'a ressuscité pour un temps, puisqu'après, il est quand même mort. Vraiment mort. Bon, quiconque, dit Jésus, vit et croit en moi, ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mort qu'on traverse nous aussi? Parce qu'on est plein de vie. Le crois-tu? Cette interpellation est vraiment pour aujourd'hui, car si nous avons un temps purement chronologique, un temps purement de nos laboratoires, un temps purement de l'hôpital, un temps de nos montres, quand on vieillit, vous connaissez la chanson de Jacques Brel, vous connaissez peut-être vos grands-parents, etc., mais au lieu d'avoir une horloge dans leur maison, ils en ont 4, 5 ou 6 pour ne pas être en retard. Voilà, pour être bien à l'heure pour le repas, etc. Ça nous fait sourire parfois, parce qu'on dit, mais grand-père, pourquoi tu as tellement de mois, il faut les remettre à l'heure et tout ça, au changement d'heure, c'est compliqué. Mais quand on est dans ce temps chronophage ou chronologique, et qu'on oublie le temps de Dieu, le temps de l'éternité, on ne peut pas traverser facilement la mort. C'est-à-dire que quand on est déjà aujourd'hui, dans le temps de Dieu, dans le temps de la vie de Dieu, dans le temps de sa résurrection, eh bien, dès lors, on peut célébrer l'évangile de la vie, je termine par cette citation du numéro 84, « Célébrer l'évangile de la vie signifie célébrer le Dieu de la vie, le Dieu qui donne vie. Nous devons célébrer la vie éternelle d'où procède toute autre forme de vie. » C'est d'elle que reçoit la vie, suivant ses capacités, tout être qui, en quelque manière, participe à la vie. Cette vie divine, qui est au-dessus de toute forme de vie, vivifie et conserve la vie. Vous voyez que le schéma est un peu à l'envers. C'est la vie éternelle qui nous donne de bien vivre. C'est la vie éternelle qui nous donne de vivre déjà maintenant. Je vais exagérer. C'est la vie éternelle qui nous aide. Il nous donne le goût de la vie, d'être un bon vivant. Voilà. Parce qu'elle vient d'une incorruptibilité. Parce qu'elle vient de Dieu. Si nous abandonnons la source de la vie, alors il faut que la vie elle-même en Dieu, la vie divine, nous convertisse et nous rappelle par elle la surabondance de son amour pour l'homme. Donc, c'est trop peu, dit le texte, de dire que cette vie est vivante, elle est principe de vie, elle est cause et source unique de vie. Ça, c'est un argument de type théologique. Tout être vivant doit contempler et louer cette vie, parce que c'est cette vie qui lui donne d'être vivant en abondance et d'être heureux. Voilà, mais je m'arrête là-dessus, je vous donne... Prenons 5 minutes pour respirer, puis on peut réagir et poser des questions.